Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast qui parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2009 et c'est l'épisode numéro 4, Télécharge le lait. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle de l'actualité tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai mes deux invités, mes deux compères même, avec qui j'ai l'habitude de faire l'émission depuis déjà au moins un mois et demi, même peut-être même deux mois. Jeff et Yann sont de retour après une courte absence pour l'épisode précédent. J'espère que vous allez bien les gars, vous êtes en forme, vous êtes à bloc?
Oui, bonjour à tous. Déjà, je suis content d'être de retour et puis je suis pas à bloc parce que j'ai chopé la crève, mais en tout cas, c'est vrai que ça m'a manqué tout ça. J'avais un peu envié Mathieu et Corben d'être sur l'épisode 3, j'avais pas pu être là, mais en tout cas, je suis très content d'être à nouveau de retour sur le rendez-vous tech et on va essayer de vous faire quelque chose de bien pour cet épisode.
Super. Jeff, ça va aussi?
Ça va très bien. Yann, tu gardes tes microbes. Enfin, l'avantage, c'est que je suis à 12 000 km de toi, donc je ne les récupérerai pas. Et c'est un plaisir d'être là, comme tous les mois.
Super. Écoutez, je vais, en plus de mes deux collaborateurs dans le podcast, dire bonjour aux gens qui nous regardent en live, puisqu'on est en train de faire un petit test pour commencer à retransmettre les enregistrements en live sur le site de Ustream, qui est utilisé par beaucoup de gens. Donc, salut à la chatroom, vous me voyez à l'image, n'est-ce pas? Tout le monde va bien? Oui, bon, évidemment, oui, vous qui nous écoutez dans le podcast, vous ne savez pas ce que répondent les gens de la chatroom, mais ils sont super enthousiastes. Donc c'est un petit test. Si ça se passe bien, on le fera donc à chaque émission. Donc j'espère que ça va bien se passer. Excusez-moi, je vous ai coupé les gars. Jeff, tu voulais dire un truc?
Non, je disais que c'était très sympa d'avoir la chatroom. C'est quelque chose qu'on expérimente au travers du podcast WoW Insider et à chaque fois ils ont une forte participation de la chatroom. Je crois qu'ils ont 200 ou 300 personnes en permanence, donc j'espère qu'à un moment on aura une audience suivie. Et en fait, ça me fait très plaisir que tu utilises du stream parce que c'est un des investissements.
Oui, c'est ce que tu me disais. mais tu sais que tout le monde utilise Ustream pour retransmettre les podcasts et les trucs du genre. Et je savais même pas que tu étais un investisseur de Ustream. Donc, en plus, on te fait de la pub, donc c'est magnifique.
C'est toujours apprécié.
Donc voilà, c'est même pas volontairement qu'on fait de la plus de pour Jeff, il est directement dans tous les trucs cool sur internet, presque tous. Aujourd'hui, on va parler donc musique, un petit peu piratage comme la dernière fois. On va parler Kindle, on va parler Twitter et Apple, entre autres. Et puis, on va se lancer tout de suite dans notre premier sujet, qui est celui dont Yann voulait parler, mais qui s'est avéré être finalement une sorte de pétard mouillé un petit peu. C'est faitmesdevoirs.com. Et dans les notes qu'on a préparées, tu étais assez véhément. Donc, je vais te laisser, Yann, expliquer un petit peu. Je pense que tout le monde sait de quoi il s'agit, mais surtout ce que tu en penses.
Ben, effectivement, il y a un truc qui a défrayé la chronique ces dernières semaines. C'est un site qui a été lancé par un Français qui s'appelle faitmesdevoirs.com. Ça, c'est le nom du site, pas le nom du Français qui l'a lancé. Et en fait, c'est un site globalement où les étudiants, les collégiens, les lycéens pouvaient envoyer leurs devoirs. Les devoirs que demande leur professeur de faire le soir, quoi, les devoirs qu'on a tous fait quand on était étudiant. Donc, on envoie les devoirs, on les scanne, on les envoie sur ce site. Et après, on a un professeur ou un étudiant plus âgé qui vous les fait, qui les corrige et qui vous le renvoie complété, moyennant finance. Donc, c'est au summum de ce qui peut se faire de plus immoral au niveau de l'éducation nationale, surtout en France où on est vraiment très, très... Peut-être regardant sur ce genre de choses. Donc le site a été lancé, je crois, la semaine dernière. Finalement, il est resté up que 24 heures, puisqu'il y a eu, ça fait la une des journaux. On en a entendu parler sur le JT de France 2, sur M6, TechCrunch, Fox News, même les sites américains en parlaient. Et donc on en a parlé partout. Et puis voilà quoi, tout le monde trouvait que c'était un peu du n'importe quoi, de contre de l'argent finalement, de proposer de faire les devoirs des étudiants. Et donc voilà quoi.
Enfin c'était des questions intéressantes. Genre est-ce qu'il est possible d'interdire ce site même, parce que a priori c'est pas clairement illégal, c'est moralement répréhensible, mais c'est pas illégal. Donc si jamais ils voulaient faire un site comme ça et qu'ils persistaient, ben concrètement il y aurait pas de moyen de les arrêter, même si tout le monde a fait une levée de bouclier.
Faire pression pour arrêter le site, c'est ce qu'ils ont fait. On pouvait pas légalement demander au gars de, par rapport à tel et tel article de loi, d'arrêter son site. Mais bon, il a reçu tant de pression de part et d'autre qu'il a été obligé de fermer son site.
Ouais.
Et moi, personnellement, j'aimerais te poser la question à toi et également à Jeff. Est-ce que c'est un truc que vous auriez utilisé, vous, étant étudiant, par exemple, si tu étais au lycée, en terminale? Est-ce que c'est un truc que tu aurais pu utiliser pour, t'es crevé, t'as un devoir de géométrie à remettre pour le lendemain et t'as pas envie de le faire, quoi, t'as envie de sortir? Est-ce que c'est un truc que tu aurais pu utiliser pour des raisons X ou Y, hein?
Je vais laisser Jeff répondre et entre-temps, je vais poser la question à la chatroom. Je vais leur demander et on va voir après leur réaction si eux aussi, ils auraient utilisé... parce qu'il y en a beaucoup qui sont étudiants aujourd'hui, donc on va voir leur sentiment. Et Jeff, toi, qu'est-ce que tu aurais fait?
Bah écoute, je pense que... Je pense pas que je l'aurais utilisé, parce que c'est débile. Quand on... une des choses que j'ai le plus de mal à faire comprendre à mon fils qui a 12 ans et à ma fille qui a 8 ans, c'est que le fait de faire les devoirs, même si c'est pénible et ça les empêche de jouer aux jeux vidéo, c'est pour construire leur futur, et donc avoir quelqu'un qui fait tes devoirs, ça amène strictement rien. Et j'imagine que de toute façon les profs petit à petit trouveraient qui utilise ce genre de service ou pas. Donc ça je sais pas quel est l'aspect légal ou la pression qui a été mise sur le Gus qu'il avait lancé pour qu'il l'arrête, mais je pense que c'est bien, parce que c'est franchement les côtés négatifs de l'internet que de voir ce genre de service se mettre en place.
Ouais, bon, moi j'avoue que même si je suis votre avis moral sur le sujet, je suis pas certain que je l'aurais pas utilisé. Et les gens de la chatroom, il y a quand même eu quelques gros oui en majuscule. Et certaines personnes qui disent « je bosse à l'école.fr, c'est gratuit ». Et donc, j'avoue que, effectivement, bosser à l'école, c'est gratuit et ça marche bien aussi, visiblement. Mais sincèrement, je dois dire que moi, je l'aurais peut-être utilisé. C'est peut-être totalement amoral, mais je me vois bien utiliser
un truc comme ça. Moi aussi, je l'aurais utilisé. C'est clair, ça fait pas un
donc,
pli.
Donc
surtout
voilà,
quand tu fais un truc.
Ouais, heureusement qu'il a été interdit, enfin en tout cas qu'il a arrêté son initiative, parce que sinon ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Quelque chose d'un petit peu plus sérieux dans le domaine de la technologie, c'est cette histoire que dont on parlait il y a quoi, un mois je crois, à l'épisode d'il y a un mois, la dernière fois qu'on était ensemble, c'était l'histoire de Internet Explorer lié à Windows depuis longtemps, et disant que c'était impossible de séparer de Windows et que c'était tellement intégré au système que il devait absolument le garder dans le système d'exploitation, etc. Et donc Yann, tu voulais nous parler de cette nouvelle à propos de Windows 7.
Ouais, effectivement, alors ça me fait un peu passer pour quelqu'un de ridicule quand je disais, effectivement, il y a deux épisodes que c'était très difficile d'enlever Internet Explorer de Windows, et finalement Microsoft l'a fait. Ils ont, en fin de compte, dans la dernière version de Windows 7, ajouté une option, un peu comme tout ce qui se fait dans un jeu suppressant de programme, une petite option qui permet tout simplement de désinstaller Internet Explorer. Donc, Internet Explorer est installé par défaut quand on a son système d'exploitation, qu'on installe Windows 7. Seulement, l'utilisateur a la possibilité de le désinstaller. Personnellement, je ne vois pas ce que ça va changer finalement globalement à la situation. À part gagner quelques dizaines de mégaoctets, ça va pas changer grand-chose.
Après, bah, on sait pas exactement pourquoi ils ont implémenté cette option. Hein. Et d'ailleurs, entre parenthèses, toi, tu dis que tu as l'air un petit peu ridicule de l'avoir d'en avoir parlé la dernière fois, mais nous avec et le monde entier avec. Hein. Tout le monde disait que c'était impossible à enlever, mais on sait pas exactement la raison de cette option qu'ils ont implémentée. Peut-être pour des sociétés qui puissent enlever Internet Explorer de Windows ou pour satisfaire l'Union européenne tout simplement, mais on n'est pas certain.
Hein. Mais en même temps, cette action, ce fait de proposer la désinstallation du navigateur, ce n'est qu'une illusion, puisque quand on y regarde de plus près, d'un point de vue plus technique, ce qu'ils ont fait, c'est juste enlever l'exécutable d'Internet Explorer, mais le noyau même du navigateur de Microsoft est encore intégré au système d'exploitation, ce qui fait que, comme je le disais dans les commentaires, je crois, de l'épisode précédent, une application qui se base sur le fait que Internet Explorer est installé sur la machine et qui utilise ses atouts d'Internet Explorer continuera de fonctionner. Winamp, par exemple, se base sur le principe que Internet Explorer est installé sur la machine. Même si, quand vous installez Windows 7, vous désinstallez Internet Explorer, Winamp continuera à fonctionner comme d'autres applications qui se basent là-dessus.
Donc il n'est pas véritablement retiré complètement du système. Non. C'est juste la partie vraiment navigateur Internet qui est supprimée. Quoi. D'accord, je comprends. À propos de Windows 7, justement, j'ai installé et essayé Windows 7 il y a quelques jours. On disait la dernière fois que vous deux, vous ne l'aviez pas encore utilisé. Vous n'avez toujours pas eu l'occasion de le tester ?
Bah, écoute, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de le tester puisque j'ai très peur de son instabilité et du fait que ça pourrait jouer des tours à mon Visual Studio et les autres applications que j'utilise. Mais peut-être que Jeff, je ne sais pas si toi, tu as eu l'occasion de l'installer ou pas.
Non, moi j'ai une vieille tablette PC IBM, je suis pas sûr que ça le supporterait, et en fait j'utilise un petit peu comme ma machine de seconde parce que pour moi le premier c'est le Mac. Ouais. Donc Windows 7, bon, j'essaierai peut-être de jouer avec, je vais passer chez Microsoft dans un mois, j'essaierai d'en récupérer une copie à ce moment-là.
Bah écoute, moi je l'ai testé effectivement. J'avoue que je suis un tout petit peu déçu, mais il faut que j'explique en fait mon commentaire. C'est-à-dire que je pense que Windows 7 va être aussi encensé injustement que Windows Vista a été enfoncé injustement. Parce que finalement, Windows 7, c'est Windows Vista qui tourne plus vite et avec 2-3 trucs différents, c'est tout. Et tous les gens qui ont craché sur Vista et qui le détestaient par principe, je pense qu'ils vont par réaction adorer Windows 7, alors que finalement, sincèrement, c'est quasiment la même chose. Je veux dire, moi, j'ai vu presque pas de différence. Je l'ai installé sur mon petit portable sur lequel je suis en train de faire le streaming en ce moment. Salut aux gens de la chatroom. et bon, il tourne sur ce portable qui est vieux, hein, qui doit avoir 3-4 ans. Donc, évidemment, il est plus léger que Windows Vista, mais au niveau des fonctionnalités, du peu que j'ai testé, en tout cas, il n'y avait pas une différence flagrante. Donc, voilà, mon pronostic, c'est pas une...
Mais la question pour toi, Patrick, en fait, c'est par rapport à un Windows XP, puisque moi, je suis toujours avec la version antidiluvienne d'XP. Entre XP et 7, si tu arrives à le faire tourner sur une machine qui a 3-4 ans, est-ce que tu conseilles de passer sur 7 ou est-ce que tu restes sur XP ?
Oh bah faut passer sur 7. Mais moi, non, il faut aussi que je dise que j'aime beaucoup Windows Vista. Je fais partie des 3-4 rebelles qui aiment Vista. Donc mon jugement est peut-être biaisé.
Mais en même temps, quand tu dis ça, j'ai l'impression que pour toi, Windows 7, c'est un peu un Vista SP3, quoi. C'est un service pack 3, en fait, c'est le premier service pack de Windows Vista.
Il y a quelques changements, mais dans l'ensemble, oui, c'est ce que je dis exactement. C'est Windows Vista. Un petit peu changé, renommé pour faire plaisir aux gens qui veulent quelque chose de nouveau, mais... Enfin bon, d'accord. Ça c'est mon jugement, hein, mais je suis sûr que le monde entier va encenser Windows 7 quand il sortira, et ça sera à tort parce que vous pouvez l'avoir aujourd'hui en installant Windows Vista. Bon, à ceci près que Windows 7 tourne beaucoup plus vite et il est plus léger.
Ça, c'est pas mal, c'est pas mal déjà.
Oui, c'est déjà pas mal, c'est sûr. Autre chose, on va passer à la musique. Visiblement, la musique est au cœur de nos préoccupations en ce moment dans le monde de la technologie, comme depuis quelque temps, mais là particulièrement. Avec encore une histoire que nous a proposé Yann sur Deezer.
Oui, Alors, je sais pas si les auditeurs connaissent un petit peu ce site Deezer qui est assez révolutionnaire.
Mais je crois que qui que ce soit qui a moins de 25 ans aujourd'hui connaît Deezer. C'est pas possible de ne pas connaître.
Ben écoute, et pas plus tard qu'une semaine, j'en parlais à un collègue qui n'avait jamais entendu parler de ce site-là. Donc,
qui a plus de 25 ans.
Qui effectivement qui a plus de 25 ans. Voilà. Effectivement. Enfin voilà, en deux mots, Deezer, c'est un site qui vous permet de rechercher de la musique, un single, n'importe quoi, et de pouvoir écouter cette musique en streaming sans avoir à la télécharger. Et quelque chose d'assez extraordinaire en train de se passer, c'est que Deezer, qui existait en version mobile pour l'iPhone notamment, la version de l'iPhone était limitée dans le sens où on vous imposait des playlists, vous ne pouviez pas sélectionner la musique que vous vouliez écouter avant. Et là, le fondateur de Deezer a présenté une version du lecteur sur iPhone, qui va également débarquer sur BlackBerry, où on va pouvoir sélectionner les morceaux qu'on veut écouter. Donc c'est assez intéressant, puisque tout le monde attendait cette mise à jour au niveau des applications mobiles. La seule chose, là où le bas blesse finalement, c'est que ces applications seront, enfin, ces fonctionnalités de sélection de la musique qu'on veut écouter seront payantes. Donc, aucun prix n'a encore été annoncé jusqu'à maintenant. On se doute que ça va pas être très très cher, mais bon, c'est quand même un petit peu embêtant. Là où le site web nous avait habitués à quelque chose finalement de gratuit, ben ils sont en train d'introduire dans leur modèle économique une façon de générer un petit peu plus de sous, quoi. Donc je sais pas si tu avais essayé, Patrick, la version mobile de Deezer, et ce que tu penses de cette news.
Non, bah justement, moi, le fait qu'on puisse pas choisir les morceaux qu'on veut écouter me rebute forcément un petit peu. Donc, Deezer, je m'en sers de temps en temps, enfin, surtout en soirée, finalement, c'est pratique parce que ça fait jukebox universel. Mais si jamais on obtient cette possibilité sur le client mobile, ça devient forcément très intéressant parce que là, pour le coup, ça devient véritablement toute la musique du monde disponible à n'importe quel moment sur votre iPhone ou sur votre téléphone portable sans aucune contrainte et sans aucune... parce que le fait de ne pas télécharger la musique, finalement, si jamais on n'a pas de contraintes et qu'on peut l'utiliser à la fois sur un mobile et sur son ordinateur, finalement, c'est comme si on avait les morceaux téléchargés chez soi. Ça n'a pas énormément y a pas énormément de différence. Donc, je pense que c'est une formule qui est... Bah, moi, il y a déjà quelques années, j'avais prédit qu'on arriverait à une solution comme ça il y a quoi, 4-5 ans, et mes amis m'avaient traité de communiste et de me dire que pour 10 euros, je disais pour 10-15 euros, on aura un forfait qui nous donne accès à toute la musique du monde. Et on ne me croyait pas. Bah, maintenant, visiblement, c'est en train d'arriver. Sur Deezer, d'une part, et sur... ah oui, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler au début de l'émission. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de Spotify, qui est un service de musique en streaming aussi, qui est absolument incroyable. Il est uniquement sur invitation en ce moment, et moi j'ai quelques invitations qui restent, donc je vais faire un petit je vais en distribuer deux ou trois aux auditeurs. On fera un petit concours, vous devrez envoyer un email à l'émission, et je vais en parler un petit peu plus tard à la fin de l'émission. Mais Spotify, Deezer, Last.fm, tous ces services-là sont en train de se muer vers une sorte de jukebox universel. Et le fait de payer 10 euros, par exemple, par mois pour avoir accès à toutes les musiques du monde en permanence me paraît pas incroyablement cher, quoi. Donc oui, moi, je pourrais être client, oui, tout à fait.
Ouais. Juste pour terminer sur cette news rapidement, pour ceux qui sont vraiment très, choqués par le fait que ce service pourrait être payant, on parle, alors c'est une rumeur, ça, rien n'a encore été confirmé, mais il se pourrait qu'on ait une version gratuite de ce même service, mais dans ce cas particulier, Deezer injecterait entre deux ou trois morceaux une petite publicité de 20 à 30 secondes. Donc ce serait une façon de rentabiliser le service si vous voulez vraiment pas payer. Mais il aurait cette possibilité d'avoir toujours vos playlists, mais avec de la pub ici et là. Voilà, c'était juste pour terminer cette pub.
Jeff, Deezer,
oui, client. Non, je suis pas client. J'ai testé d'autres services, Lala par exemple, Lala. Il y a un petit site qui s'appelle The 61 qui te permet de découvrir aussi de la musique plutôt indie, qui est vraiment sympa. C'est fait par deux petits jeunes qui essaient de développer une UI qui est vraiment vraiment intéressante, avec un espèce de casual game meets music en termes d'approche. Donc ils essaient aussi d'avoir une interactivité de type casual game sur le site. Mais j'ai pas essayé Deezer. Je suis aussi un utilisateur de Pandora, que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas essayé.
Oui, il a beaucoup de succès aux États-Unis, hein, Pandora. C'est un gros.
C'est un énorme site, oui. C'est devenu, en fait, dans beaucoup de parties, le truc que tu mets dans le background, tu rentres tes préférences et ça te donne une sélection qui est vraiment très sympa. Et leur application sur l'iPhone est la deuxième application la plus populaire.
Ouais, donc vraiment, c'est quelque chose vers quoi on est en train de se diriger. Et bon, on risque de voir beaucoup plus de tout ça à l'avenir. D'autant plus que visiblement, les majors sont en train de changer un petit peu d'avis à propos d'Internet, à tel point qu'on a eu au Royaume-Uni une histoire assez invraisemblable qui était que les ayants droit, enfin une partie des ayants droit, plus exactement les éditeurs, demander à Google de passer leur musique sur YouTube et YouTube refusait. Enfin, Google refusait pour une question financière. Donc, il y avait quand même un problème, un truc qui clochait. Mais on est arrivé à une situation où c'était les gens qui étaient responsables de la musique qui demandaient à YouTube de le passer et c'est YouTube qui refusait. Ce qui est, enfin, c'est la première fois dans l'histoire de la musique. Oui, complètement, quoi. On marche sur la tête. Là, c'est invraisemblable. Donc, effectivement, il y a une grosse évolution des mentalités à ce niveau-là. On n'a pas encore de réponse de résolution à ce problème. Et par contre, il y a eu un autre problème un petit peu dans le sens inverse aux États-Unis avec Hulu, dont on vous parle régulièrement dans cette émission, qui est un service de streaming, mais pour la vidéo ce coup-ci, qui est donc soutenu par tous les plus grands studios, notamment de télévision, là-bas aux États-Unis. Ouais. Et Boxy, t'as suivi cette histoire entre Hulu et Boxy, Jeff ?
Où l'un empêchait d'accéder à l'autre.
Voilà.
Ouais. C'est-à-dire. Ouais.
En fait.
Non, j'ai lu en fait comme tout le monde la petite histoire sur TechCrunch, mais j'ai pas creusé.
Bah en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Boxy, c'est un logiciel qui vous permet de transformer soit votre Apple TV, soit votre ordinateur, soit toute une série de différents appareils en télévision Internet, et il va récupérer les fichiers, enfin les images vidéo directement sur Internet, et il vous les diffuse sur votre télé directement ou sur votre ordinateur. Et il récupérait les images, les séries de Hulu en passant la pub de Hulu, ce qui est très important. Et il y a quelques semaines, Hulu a dit non, ça, stop, ça suffit, arrêtez de diffuser notre contenu. Ce qui est invraisemblable puisque Hulu a pour but de diffuser le contenu vidéo sur Internet. Et à partir du moment où Boxy diffuse également la publicité, on voit pas vraiment où est le problème. Donc ils ont coupé l'accès à Hulu pour Boxy. Boxy a réactivé le truc en passant par un autre côté. Hulu a redésactivé le truc. En fait, il passait par les flux RSS qui sont utilisés librement comme pour un podcast. Hulu a dit les flux RSS peuvent être diffusés, mais ils ont bloqué Boxy. Donc Boxy, pour les techniciens, hein, j'explique. Boxy s'est fait passer pour Firefox, par exemple, pour pouvoir télécharger quand même sans annoncer à Hulu qu'ils étaient Boxy. Et on en est aujourd'hui au moment où Hulu ne peut pas du tout bloquer l'accès, puisque ils ont le principe même du truc, c'est que n'importe qui peut y accéder, et c'est un accès libre. Donc on imagine que la raison de ce blocage vient pas vraiment de Hulu en elle-même, qui est une société tournée vers Internet, mais des ayants droit, qu'il a encore, des studios, sont encore un petit peu... ils se sont dit, bon, tant que c'est pour la diffusion sur Internet, ça va, mais si on trouve un moyen pour diffuser sur la télé, ça nous dérange plus. Et là, j'aimerais préciser une chose qui est importante, c'est que le gros problème sous-jacent de cette histoire, c'est que, en fait... Un téléspectateur, ou plutôt un spectateur sur Internet, vaut en revenus publicitaires beaucoup moins qu'un spectateur à la télévision. C'est-à-dire que le spot de pub va être vendu beaucoup plus cher pour 1 million de spectateurs s'il est diffusé à la télévision que s'il est diffusé sur Internet, même si c'est exactement le même spot qui est diffusé dans les mêmes conditions, voire dans de meilleures conditions sur Internet, puisqu'il y aura 15 secondes avant l'épisode de série que vous allez regarder, et puis c'est terminé pour tout l'épisode après. Et ça, c'est un vrai problème qu'on a au niveau des annonceurs, et je sais de quoi je parle, puisqu'on a ce même problème dans le monde des podcasts, c'est que l'attention d'un spectateur vaut moins sur Internet, d'un téléspectateur ou d'un auditeur vaut moins sur Internet, alors qu'elle devrait devoir plus, puisque on est plus attentif quand on écoute un podcast qui nous intéresse ou qu'on regarde une émission qui nous intéresse et qu'on est allé chercher. Donc voilà, c'était pour souligner un petit peu le problème. Et Jeff, si tu peux investir quelque part et faire en sorte que, je sais pas, si tu peux aller investir chez les studios les studios et les majors enfin les grands studios de télévision pour leur changer un petit peu leur état d'esprit, ça nous rendrait service. Voilà, merci d'avance.
Je pense que tu sais, là c'est comme tous les changements qui ont eu lieu dans les 5 à 10 dernières années avec l'avènement d'Internet. Ils vont freiner des cas de fer tous ces changements, et puis bah à un moment ou à un autre. Je veux dire, ce qu'il faut voir déjà, c'est que Hulu représente une évolution énorme dans la vision des majors par rapport à la distribution. Je veux dire, maintenant tu peux accéder à toutes les séries américaines. Évidemment, c'est aux États-Unis, c'est pas encore en Europe, mais tu peux accéder aux séries américaines sur Internet et regarder en fait tout ce que tu veux à ta convenance en regardant de la pub de temps en temps sur le même principe que les coupures que l'on a dans ce pays, puisque c'est pas comme en Europe où c'est relativement limité. Nous, on a le droit à 4 ou 5 coupures par série de 1 heure. Donc c'est à peu près la même chose sur Internet, mais c'est déjà énorme qu'ils aient fait ce progrès de l'amener sur Internet. Donc je pense que l'histoire de Boxy, je ne sais pas si c'est Hulu qui s'est dit oula, ça va un peu trop loin, ça va un peu trop vite, et on veut mettre une espèce de régulation là-dessus, mais j'ai aucun doute que d'ici quelques années, tout le monde se sera assis autour d'une table, aura compris que l'intérêt de chacun c'est de d'offrir le plus de choix possible aux consommateurs, et puis on aura un Boxy ou une boîte équivalente qui fournira ce contenu streamé sur la télé.
Ouais, moi je crois qu'il y a beaucoup de vieux qui vont devoir mourir avant que ça n'arrive, mais bon, ou partir à la retraite. Soyons plus gentils, disons partir à la retraite. Ceci dit, il y a un truc qui risque de déplaire beaucoup à ces gens-là, justement, avant qu'ils partent à la retraite. C'est une nouvelle application pour Android. Certains d'entre vous connaîtront évidemment le système d'exploitation pour téléphone portable de Google. Bon, c'est le Google Phone, quoi. Et une application, en fait, qui est extrêmement ingénieuse, qui vous permet, avec l'appareil photo de votre téléphone portable, de scanner le code barre d'un film ou d'un DVD ou enfin d'un CD ou quoi que ce soit, et il communique directement avec votre ordinateur à la maison, et il va lancer de lui-même sur l'ordinateur à la maison le téléchargement par BitTorrent de ce petit film ou de ce CD que vous venez de scanner avec votre téléphone. Donc vous vous baladez à la Fnac, vous voyez le dernier ce que je sais moi, Jennifer, hein, n'est-ce pas ? Il y a des fans ici. Vous prenez une photo du truc, du code barre, et automatiquement chez vous à la maison, il commence à se télécharger illégalement, bien sûr, avec un logiciel BitTorrent. C'est un truc qui risque de ne pas plaire du tout aux studios et aux majors, et avec raison pour le coup, parce que c'est le summum de la facilité. Moi, ce que ça me dit, c'est que les majors, enfin les ayants droit, ont intérêt à offrir des solutions aussi simples et aussi faciles très vite, parce que chaque année ou tous les deux ans, on a une nouvelle solution qui facilite encore l'obtention de contenus pirates. Et ils n'ont pas d'autre solution, à mon sens, que d'offrir des solutions légales qui soient aussi pratiques et aussi faciles. C'est ça la clé, finalement. Bon, on est en train de répéter toujours la même chose, mais...
Mais il y avait déjà une application de ce type-là qui avait été développée sur le G1, justement. C'était un truc où tu scannais un code barre d'un produit, d'une bouteille de lait ou de n'importe quoi.
Et ça disait... téléchargeait une bouteille de lait chez toi?
presque. Enfin, ce sera pour la prochaine version, mais la en version tout cas, celle-là. Ouais. pour celle-là, en fait, quand ça te disait, ben voilà, ce que tu viens de scanner, ben tu vas là-bas, enfin, à 3 rues d'ici, dans tel magasin, et tu le trouveras à moins cher que le modèle que tu as juste en face de toi, quoi. Donc, et ça, c'est parfaitement légal, et c'est un truc qui, c'est la première implémentation de la lecture des codes à barre qui avait été faite sur G1, et c'est parfaitement légal, donc je pense que c'est des choses qu'on va voir de plus en plus, quoi.
Tout à fait, ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai que. Pardon Yann, Jeff, je t'interromps.
T'as aussi la version plus utile qui est de vérifier, genre pour les gens qui ont des allergies ou des choses qu'ils ne peuvent pas manger, le fait de scanner un produit avec le code barre te permet d'aller taper dans la base de données qui a ton profil à toi, qui te dit oui c'est bon, c'est quelque chose que tu peux manger ou pas quoi.
Ouais.
Donc ça c'est une démo. Je sais pas si vous avez vu cette démo à TED, enfin dans les qui est passé donc qui s'est passé à TED 2009 et qui vient juste d'arriver sur Internet, qui est une démo donc un petit peu futuriste d'une caméra que tu portes autour du cou avec un espèce de mini projecteur, et plutôt que d'avoir un clavier, tu projettes sur le mur un espèce de clavier et le système va voir quelles sont les touches sur lesquelles tu appuies ou les interactions que tu vas avoir avec le mur, et ça te permet en fait typiquement d'avoir cette application où tu montres le code barre à la caméra et ça te dit voilà les composantes, voilà ce que tu peux manger, voilà ce que tu peux faire avec. Et une application
c'est pas mal, ça.
Ça va mettre 5 ou 10 ans à arriver, parce que bon, c'était de la bricole, mais c'était vraiment super, super intéressant.
Bah c'est vraiment tout ce nouvel univers finalement que nous ouvrent les mini ordinateurs que sont aujourd'hui nos téléphones portables quand ils sont connectés à Internet en permanence, et il y a véritablement tout un monde de nouvelles applications qu'on est en train de découvrir petit à petit, et celles-ci en font partie quoi. C'est véritablement des choses surprenantes auxquelles on n'aurait pas pensé et qui sont devenues possibles aujourd'hui grâce à ce genre de choses. Une autre chose qui a été rendue possible grâce à Internet, c'est ce truc invraisemblable qu'a fait un artiste qui s'appelle Cutiman. Je mettrai le lien, évidemment, dans les notes de l'émission. C'est un remix, en fait, de vidéos qu'il a tirées de YouTube. Je ne sais pas si tu l'as vu, Yann. Jeff, je sais que Yann l'a vu. Tu l'as vu aussi, d'accord.
Très sympa.
J'explique pour les auditeurs. En fait, il a pris des vidéos de YouTube complètement indépendantes où il y avait des gens qui faisaient qui jouaient d'un instrument sur chaque vidéo, donc d'un instrument complètement seul. Et il a pris 5, 6, 7, 10 vidéos différentes, il les a remixées ensemble et il a fait des morceaux complètement nouveaux à partir de tous ces trucs-là. Et en plus, comme il est super doué, ça rend vraiment bien, et c'est, je sais pas, il y a quelque chose de fascinant dans cette idée que tous ces gens-là avaient mis leurs vidéos sur YouTube pour jouer, pour faire, c'était des profs par exemple de musique qui montraient un truc, ou le gamin qui se met à chanter devant sa webcam pour impressionner ses potes ou sa nana, et toutes ces vidéos remixées ensemble de cette manière complètement magique pour créer quelque chose de nouveau, c'est vraiment, ça, je sais pas, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, quoi.
Moi, ça m'a fasciné. C'est sensationnel. Ouais. C'est pratiquement de l'art. Moi, ce que j'aimerais vraiment voir avec ce truc-là, peut-être que c'est sur le site, j'ai regardé rapidement, mais j'ai pas vu, ce serait une forme de making-of, au moins connaître l'URL des vidéos indépendantes sur lesquelles il s'est basé pour faire ces trucs-là, parce que on se dit quand on regarde ces vidéos, mais c'est pas possible. Il n'a pas pu faire quelque chose d'aussi incroyable, d'aussi impressionnant, parce que moi c'est vraiment, enfin, si jamais le truc il sort demain sur iTunes, il sort un album comme ça, moi j'achète sans problème, parce que de point de vue production, de point de vue qualité d'écoute et richesse de la musique, ça a du tempo, ça a du rythme, ça passe très très bien, et c'est des univers complètement différents, et moi j'aimerais bien voir le making-of du truc, quoi.
Bah il y a le générique sur le site, il y a les noms de toutes les vidéos qu'il a utilisées. Mais je pense qu'on est en train de faire très envie aux gens qui écoutent l'émission, donc allez voir le lien sur le site quand vous reviendrez chez vous, si vous êtes en train d'écouter quelque part, ou alors directement maintenant si vous êtes en train d'écouter devant votre ordinateur, et vous pourrez écouter ça, c'est vraiment fascinant. Kindle, encore le Kindle, encore lui. Il y a eu, décidément, c'est les deux semaines des problèmes de copyright, hein, en ce moment. Il y a eu un problème avec la, Ouais, ça n'arrête pas, c'est vrai. La guilde des auteurs avait un problème avec la nouvelle fonction du Kindle 2 dont on a déjà parlé, qui était la fonction de lecture synthétique des livres. Vous savez, c'est la, dans le Kindle 2, il y a la possibilité de faire lire un livre par l'ordinateur avec la voix de robot. Quelqu'un veut se risquer à la faire, la voix de robot?
je me risquerai pas à la chose. Mais cela dit, je trouve que on a fait des progrès phénoménaux dans ce domaine-là.
Ça devient audible, disons. Ça devient audible. C'est pas non plus complètement naturel.
Bah, c'est quand même vachement bien, je trouve.
Oui, très bien, très bien. Mais pas
mais je te laisse continuer.
Donc, il y a cette fonction et la guilde des auteurs a menacé Jeff Bezos, donc, enfin, la société Amazon, qui est le constructeur du Kindle, d'un procès parce qu'il disait ça va faire en sorte que les gens n'achètent plus de livres audio s'ils peuvent lire leurs livres sur leur Kindle directement, leur livre normal. Alors, outre le fait qu'il me semble que c'est un petit peu exagéré, c'est quand même étrange de faire de menacer d'un procès pour ça, parce que bon, si quelqu'un a acheté le livre, il a bien le droit de demander à quelqu'un de le lui lire, par exemple, ou enfin bref, bon, ça c'est un autre problème. Mais le truc qui était intéressant dans cette histoire, c'est que l'histoire a fait le tour du net pendant 2 ou 3 jours, un petit peu plus, et puis Amazon a dit bon, ok, on va autoriser les différents éditeurs à désactiver cette fonctionnalité s'ils le veulent. Et la vitesse à laquelle ils ont répondu ont laissé penser à beaucoup d'analystes sur Internet qu'en fait Jeff Bezos, qui est l'initiateur du projet Kindle, avait déjà prédit que ça poserait un problème aux ayants droit et aux éditeurs. Il avait intégré cette fonction à la base dans le Kindle et il s'est dit, le jour où ils vont gueuler, eh ben on va activer cette possibilité pour permettre aux ayants droit de ne pas autoriser la lecture. Et donc, ça sera sur une base de chacun choisira s'il veut ou s'il ne veut pas acheter le livre qui autorise ou qui n'autorise pas la lecture toute seule. Enfin, la lecture par le Kindle. Et évidemment, il est clair que quand c'est présenté comme ça, si on vous propose un livre qui peut être lu par votre Kindle et un livre qui ne peut pas être lu, peut-être que vous aurez tendance à choisir celui qui vous propose plus de possibilités. Donc, ça incitera les ayants droit et la guilde des auteurs notamment à activer cette possibilité malgré tout. Jeff, toi qui es un petit peu plus orienté business, il te semble cohérent ça te semble cohérent cette théorie que Bezos avait prévu l'histoire, ou c'est du fantasme d'internetien?
Bah, c'est vrai qu'ils ont mis en place une solution très très rapidement, et quand on connaît Amazon, bah, qui est une grosse boîte qui doit qui a besoin de pas mal de temps pour faire bouger ses troupes. Le fait que ça se mette en place aussi rapidement a amené ces supputations qu'ils s'y attendaient un petit peu. Objectivement, c'est pas idiot de penser qu'ils avaient dans l'esprit que ce genre de levée de bouclier pourrait se passer et qu'ils aient une solution toute prête. Ça me semblerait logique. Par contre, je sais pas, j'ai pas de détails d'Amazon même, donc je
bon, tu te mouilles pas quoi, donc tu sais pas.
Non, je sais pas.
D'accord.
Je lis les mêmes sources que toi, qui ont fait leurs propres supputations.
Et ouais. Non, bah de toute façon, personne sait. Hein. Effectivement, c'est un truc qu'on pense, mais bon, personne ne pourra savoir. Yann, je t'ai interrompu à nouveau.
Non, enfin, je voulais juste dire que la synthèse vocale, c'est quelque chose qui existe déjà depuis un moment. C'est pas hier que subitement on a commencé à avoir un appareil.
Là, c'est directement sur l'appareil qui est fait pour stocker des livres, qui peut les lire à haute voix. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que la synthèse vocale sur ton Mac.
C'est ouais, mais spécifique. En même temps, tu as le, je crois que les Pocket PC sont capables de faire de la synthèse vocale. J'avais vu ça dans leur SDK. Et donc, du coup, t'as plusieurs PFA qui savent faire ça. Moi, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui peut aider à la vente du livre. Enfin, tu ouvres, les malentendants seraient plus susceptibles d'acheter ce genre de choses-là, même si le Kindle 2 n'est pas taillé pour permettre de naviguer à un malentendant, mais je pense que c'est intéressant. Et puis surtout, c'est déjà limité par le fait qu'une synthèse vocale ne pourra jamais, faire, enfin, communiquer de l'émotion. Il ne sera incapable de.
Jamais, on ne sait pas. Hein.
Mais l'ironie, la colère, la joie, ça, c'est des choses qui sont vraiment des thèmes qu'on va avoir dans un roman et pas dans quelque chose qui est plus dédié à la finance de marché. Donc je pense que c'est des
la synthèse dire que vocale... dire que la synthèse vocale ne pourra jamais le faire, c'est quand même un petit peu présomptueux comme
Oui, mais tu me connais, Yann. Tu me connais, Patrick. Moi, j'aime bien.
Si vous avez déjà utilisé des services comme Audible qui vous permettent d'acheter des audiobooks, donc des livres qui vont être lus par les auteurs, je pense qu'effectivement ça prend une dimension assez intéressante. Cela dit, alors que une fois que la synthèse vocale aura atteint un niveau de perfection suffisant pour que la plupart des textes puissent être rendus sans une voix trop mécanique, électronique, robotique, il y aura, je pense, pas mal de types de bouquins ou même de news. Je pense surtout aux news le matin. Avoir un service où on te compresse les news et on te ressort ça en un quart d'heure, une demi-heure, de manière à ce que tu aies l'ensemble de toutes les news qui t'intéressent dans ton téléphone, ça pourrait être intéressant.
Justement, tu m'offres une transition parfaite pour la deuxième partie de cette histoire, qui est que une étude qui a été faite à propos du coût d'impression des journaux aux États-Unis, qui est sans doute pas loin du coût d'impression des journaux dans le monde en général, et ils sont arrivés à la conclusion que ça coûterait moins cher aux éditeurs des journaux des quotidiens d'envoyer un Kindle à tous leurs abonnés que d'imprimer le journal et de le faire parvenir aux abonnés. Ce qui est quand même, et ils ont dit dans cette étude que le système d'impression du papier finalement était un système complètement complètement passéiste et enfin peut-être pas passéiste mais en tout cas dépassé, et que aujourd'hui ça coûtait beaucoup beaucoup trop cher de faire imprimer du papier et de le distribuer, et que toute cette infrastructure n'était plus rentable aujourd'hui. Disons que c'est certainement quelque chose dont on se doutait, mais l'idée de se dire concrètement que ça coûterait moins cher d'envoyer un Kindle à tous les abonnés que d'imprimer le journal, c'est quand même quelque chose de saisissant, quoi. C'est une image qui marque.
C'est une image qui marque, mais c'est en train de se dérouler sous nos yeux, puisque aujourd'hui, là, en ce moment, si tu regardes TechCrunch, tu verras une histoire, enfin une news, comme quoi le Seattle Post Intelligencer, qui est un grand journal de la région de Seattle, va arrêter d'imprimer son journal, je crois c'est demain. Et ils vont passer en online only, c'est-à-dire qu'ils conservent l'activité du journal, mais ils arrêtent d'imprimer. Ce sera essentiellement en distribution online. Parce que le coût d'impression, le coût de distribution, le coût des invendus fait que c'est plus économiquement viable.
C'était l'une des grandes prédictions de nos camarades de Buzz Out Loud. Je crois que c'était Molly Wood qui disait ça dans ses prédictions pour l'année 2009. Elle avait dit un des grands journaux nationaux cesserait d'imprimer. Et c'était vraiment prophétique, parce que pour le coup, il y en a plusieurs qui ont annoncé cette intention dans différentes villes des États-Unis, et c'est arrivé beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Donc effectivement, t'as pas tort, c'est en train d'arriver concrètement sous nos yeux, quoi.
Ben, ils sont tous dans une situation économique et financière complètement précaire, soit en banqueroute, soit de doigt de la banqueroute, soit en ayant carrément fermé les portes. À San Francisco, le San Francisco Chronicle, qui est en gros le grand daily du coin, va virer 70% du staff pour essayer de se maintenir à flot, mais ils vont essayer de continuer à imprimer le journal. Donc clairement, de toute façon, les éditions imprimées telles qu'on les connaît, d'ici quelques années, elles n'existeront plus.
Ouais, mais moi je ne souhaite que l'arrivée du Kindle en France. Peut-être que ça arrangera tous nos problèmes d'un seul coup. Bon, peut-être que je suis un petit peu optimiste aussi. Maintenant, le quart d'heure Twitter. Évidemment, on ne peut pas s'en passer. Hein. Il faut qu'on ait notre petit lot de news Twitter à chaque épisode. Cette fois-ci, c'est Eric Schmidt, donc le PDG de Google, qui a fait un petit commentaire en disant que Twitter était... quels étaient ces termes exacts? Une sorte d'email...
un parent pauvre de l'email, non?
Voilà, il a dit un truc comme ça. Et ce commentaire m'a paru incroyablement... ah, pardon Yann, je t'entends dire quelque chose.
Non, du tout.
Ah d'accord, bon, c'est moi qui entends des voix. C'est Eric Schmidt qui a infiltré ma connexion.
C'est Eric Schmidt qui te parle, mais, Patrick.
Voilà. Tu dis du mal de Google. Ouais, donc Eric Schmidt a dénigré Twitter et il me paraît invraisemblable qu'il soit aussi aveugle parce que Twitter est un outil tellement nouveau et tellement... Bon, on en a parlé pendant des heures, je ne vais pas en mettre une couche, mais il me paraît étrange que Schmidt soit aussi obtus et qu'il ne voit pas le potentiel de Twitter. Moi, je dis depuis longtemps que Google devrait racheter Twitter et très vite parce qu'il y a énormément de possibilités. Et d'ailleurs, l'une de ces possibilités qui pourrait être complètement en rapport avec ce que fait Google, c'est la possibilité de faire des recherches dans Twitter, qui a été intégré à la page de base il n'y a pas longtemps, et qui offre effectivement une véritable alternative à Google, pas pour les mêmes applications exactement, mais il y a un tel foisonnement d'informations, de liens, de contenus très spécifiques sur Twitter et d'immédiateté du contenu que c'est une source d'informations qui peut être utilisée si elle est bien utilisée, elle peut être véritablement bénéfique. Et d'ailleurs, Twitter est en train de s'orienter un petit peu dans cette direction. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça va être un outil indispensable dans les années à venir. Peut-être que Jeff, tu peux nous donner ton avis sur la question puisque tu connais bien les gars de Twitter.
Ouais, je pense que alors déjà, on en a parlé il y a un mois. Donc on a défini ce que c'était que Twitter. À l'époque, Comscore donnait à peu près 2 millions d'utilisateurs, de visiteurs sur Twitter par mois. Un mois plus tard, on est à 4. Donc le service a doublé en termes de trafic en un mois. Ce qui s'est passé sur les 30 derniers jours, c'est en fait l'arrivée de tout un tas de célébrités de la musique, du sport, des news, de la politique sur Twitter. Et donc là, on a vraiment l'impression que on est passé au stade supérieur en termes de médiatisation et d'utilisation de Twitter, puisqu'on en parle à la télé, on a parlé sur les grands shows du soir, et là franchement c'est l'explosion, on entend partout. On parlait tout à l'heure de la conférence South by Southwest qui a lieu en ce moment à Austin, et c'est la grand fête, la grand messe Twitter
C'est là-bas que Twitter avait véritablement explosé dans le monde de la technologie.
Il y a un an. Tout à fait. Et donc là, en fait, la grosse question, c'était est-ce que Twitter va survivre Southwest parce qu'il y a tellement d'utilisation. Donc je pense que aujourd'hui, ce que dit Schmidt, déjà, je pense déjà que Schmidt est quelqu'un de très intelligent. Et donc quand il dit quelque chose, il y a des raisons pour lesquelles il le dit.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc soit c'est une position compétitive que Google veut se donner. Bon, ils ont le service Blogger, qui est une des plus grosses plateformes de blogging sur la toile. Ils ont racheté Haiku, qui était une espèce de Twitter knock-off. Enfin, c'est même pas un compétiteur, parce qu'il est très peu pratique.
Haiku. Ta connexion est un peu limite là. T'as eu un petit moment.
On dit Haiku.
Ah bon, on dit Haiku, on dit pas Jaiku, d'accord. J'ai toujours entendu Jaiku en fait.
Bah nous on dit Haiku.
D'accord.
Et donc eux, bon, je pense pas qu'ils puissent dire bon, nous on a un compétiteur à Twitter, mais je pense que si Schmitt était effectivement intéressé par acheter la boîte, il n'irait pas le dire devant tout le monde.
Oui, non, c'est évident.
Sachant que, de toute façon, le jour où un des gros, donc Google, Yahoo et Facebook, se prépare à racheter Twitter, de toute façon, il y aura une grosse mise aux enchères de la boîte avec MySpace, les boîtes traditionnelles de médias, etc., qui se mettront sur les rangs. Et donc, je pense que si la rumeur du prix de 500 millions de dollars est réelle pour Twitter il y a un mois, on peut se demander de la valeur de Twitter d'ici quelques mois, puisque je ne vois pas de raison particulière à ce que la pénétration de Twitter diminue.
Ouais, c'est
sûr. Je vois en fait la quasi-totalité de mon réseau LinkedIn arriver sur Twitter les uns après les autres, et je dois avouer que la croissance m'a vraiment impressionné.
Ah bah, ces derniers temps, Twitter est absolument partout, peut-être un petit peu moins en France, même si ça commence à arriver également, mais ces deux derniers mois, et ce dernier mois en particulier, c'est invraisemblable. Je veux dire, il y a encore deux mois, avoir 50 000 followers sur Twitter, c'était énorme. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'avoir des gens à 250 300 000 followers, et les plus gros sont à 500 000 followers. C'est invraisemblable l'explosion qu'il y a eu, mais véritablement, quoi. D'ailleurs, une personne qui n'est pas étrangère à ce fait, c'est Jason Calacanis, qui est un des CEO, un des PDG de la Silicon Valley, qui a offert à Twitter 250 000 dollars pour être dans la page des personnes recommandées par Twitter pendant 2 ans. Le simple fait d'être dans la page des personnes recommandées par Twitter peut donner plusieurs centaines de milliers de followers, de personnes qui vont suivre vos mises à jour. Et Calacanis a offert 250 000 dollars pour être sur cette page. Et Calacanis n'est pas un imbécile, donc s'il le dit, outre le fait que c'est peut-être un petit coup de pub, lui, il dit qu'il est extrêmement sérieux, et s'il est prêt à lâcher autant d'argent là-dedans, c'est que a priori, il pense que ça va avoir une énorme importance, et moi, je suis de cet avis aussi. Donc si Calacanis le dit, et qu'en plus, moi, je suis d'accord avec lui, ça veut dire que c'est forcément vrai, quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas de doute. Toujours à propos de Twitter, Facebook a changé.
Juste une chose. Jason est quelqu'un d'extrêmement doué en termes de PR, capacité à prendre une news en fait au moment où elle passe et se l'accaparer. Et donc, quand tu vois déjà le nombre d'impressions qu'il a eu sur sa personne autour de son annonce, il a déjà rentabilisé ses 250 000 dollars. Donc, qu'il le fasse ou pas, c'est pas grave.
Ouais, pour toi, c'était peut-être un petit peu un coup de pub quand même, quoi.
Ah. On va dire ça.
Je sais pas ce qui se passe avec la connexion avec Jeff ce coup-ci, mais c'est un petit peu aléatoire.
Décidément.
Oui, c'est un peu étrange.
Il est encore avec nous ?
Bah, visiblement. Ah oui, il est là. Je parlais de Facebook à l'instant pour dire que la plupart des gens qui nous écoutent, s'ils sont pas encore sur Twitter, et c'est un tort, ils sont certainement sur Facebook, et vous avez dû vous apercevoir que le look de Facebook a changé ces derniers jours, et c'est, à mon sens et au sens de beaucoup de gens, une réponse directe à Twitter, et c'est un look beaucoup plus twitteresque, on dira. Donc voilà, c'est juste une petite remarque pour vous dire à quel point Twitter a une influence sur le monde des technologies et du net en ce moment. Et une dernière chose, c'est une petite histoire à propos de David Prager, qui est l'un des fondateurs de Revision 3, qui est une société qui fait des podcasts et de la vidéo sur Internet. C'est un petit peu la télévision par Internet. Et il y a eu, il y a une petite semaine, une histoire assez marrante. C'est que lui, il habite donc à San Francisco, bien sûr. Et il y a eu un type qui est rentré chez lui. Un type qu'il connaissait pas, qui était même pas un voleur, hein, c'était un type qui était complètement bourré, qui est rentré chez Prager, et il savait pas, il l'a entendu. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé un Twitter pour prévenir les gens qu'il y avait quelqu'un chez lui. il s'est pas trop inquiété parce qu'il a vu que c'était pas un voleur, mais au fur et à mesure que le mec qu'il a commencé à parler avec le mec, il a carrément branché sa webcam et il a streamé, je crois que c'était sur Ustream d'ailleurs, comme sont en train de voir nos spectateurs dans la chatroom, il a streamé sa discussion avec le mec et le mec était complètement pété. Il a essayé de le sortir de son lit parce qu'il est venu se coucher dans le lit de Prager en fait. Il a essayé de le sortir de son lit, de le faire sortir de chez lui. Le mec, il était à moitié bourré, mais il voulait pas sortir. Ils sont pas battus, ça a pas été violent ni rien. Mais c'est quand même invraisemblable que sa première réaction n'ait pas été d'appeler les flics ou quoi que ce soit, c'est de tweeter truc et de faire un streaming qui était certainement une protection aussi bonne que le fait d'appeler les flics, parce que le temps qu'ils arrivent et tout ça, si tu dis plutôt, bah écoute, mon vieux, en ce moment on est sur internet, donc si tu fais quoi que ce soit, bah voilà, tu seras vu par le monde entier, c'est sûr que c'est un petit peu la télésurveillance mondiale en 2 secondes, quoi. C'était marrant. Autre chose, toujours en rapport avec Google, c'est Grand Central, qui est en train de revenir. Alors, Grand Central, c'est un service qu'on ne connaissait pas très bien en France et qui a été racheté par Google il y a presque 2 ans, je crois. Est-ce que tu as la chance d'avoir un compte Grand Central, Jeff ?
Non, j'ai jamais eu à utiliser Grand Central, qui est un espèce de PBX, puisque la plupart du temps, Skype me convient très bien. Mais
c'est quoi un PBX ? Tu peux expliquer parce que...
C'est juste un système qui te permet de distribuer des... faut que j'arrête de dire eux.
Oui, en plus, je sais pas ce qui se passe avec Skype, mais à chaque fois que tu dis eux, ça ralentit ta voix et ça fait un son bizarre. Donc, en plus, Skype te dit
de Dark Vador, en fait.
Ouais, c'est ça. Pardon, vas-y,
désolé, continue. Je m'excuse. Donc, un PBX, c'est un système qui permet de d'agréger les appels entrants d'un numéro de téléphone et de distribuer au sein de plusieurs téléphones. Donc c'est un central d'appel, je crois.
Donc en français. Voilà. Et en fait, il base ça sur Internet ou c'est comment ? Je veux dire, il te donne un nouveau numéro de téléphone et tous tes anciens numéros sont redirigés. Ou plutôt non, tu donnes ce numéro à tous tes amis et ensuite tu choisis vers quel numéro c'est redirigé. C'est ça l'histoire ?
Je sais pas comment ça fonctionne en tant que tel.
Bon. Moi, ce que j'ai entendu, c'était effectivement un truc comme ça où tu as un numéro unique que tu devras retenir pour le reste de ta vie. Et donc, ça t'évite finalement de devoir gérer un numéro de téléphone portable, un numéro chez toi, un numéro du boulot, etc. Tu ne communiques qu'un seul numéro et après, sur l'interface de configuration qu'il y a sur un des sites de Google, tu peux définir, voilà quoi, tel groupe d'utilisateurs, eux, ils vont me contacter, ça va être redirigé sur mon téléphone portable, tel autre groupe, ça va être sur mon téléphone de bureau, etc., etc. C'est un truc qui pour le moment n'est pas encore disponible pour les utilisateurs. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de Google, vous n'allez pas pouvoir ouvrir un compte pour bénéficier de ce service.
Ça s'appelle Google Voice, ça a été renommé en Google Voice. Ouais.
Exactement, exactement. Et donc, pour le moment, c'est en stand-by. Seules les personnes qui étaient sur Grand Central avant peuvent maintenant demander à faire une migration vers ce Google Voice, mais un nouvel utilisateur ne peut pas. Il y a des gens qui sont d'ailleurs tellement pressés de pouvoir tester Google Voice qu'ils sont prêts à mettre, ils ont payé des comptes à $650 sur eBay, je crois, pour pouvoir tester en exclusivité ce service qui sera disponible d'ici quelques semaines pour tout le monde, quoi. Et il y a un truc que j'avais vu concernant Google Voice qui est assez intéressant et qui en même temps ne m'étonne pas vraiment de Google. Je sais pas si tu avais vu, Patrick, c'était le truc qui consiste à faire un transcript de tes messages que tu as reçus sur ton répondeur. Donc globalement, on t'appelle, on te laisse un message sur ton répondeur, tu recevras en fait un email ou un texto, je sais pas comment ça va se passer, mais un texto ou un email du message qu'on t'a laissé, mais sous forme écrite. Et donc, bien évidemment, dès que c'est sous forme écrite, Google peut analyser le texte et te balancer de la publicité autour en fonction du message qu'on t'a laissé. Enfin, ça peut aller très très loin. Mais en tout cas, c'est une option qui est assez intéressante quand t'as pas forcément la possibilité d'écouter quelque part. Tu peux récupérer ton message audio sous forme de texte. Et c'est un truc qui sera possible avec Google Voice.
C'est le genre de choses qui sont... On sait pas exactement à quoi ça sert, mais on imagine toutes les possibilités. Et il y a forcément des choses intéressante. Et bon, moi personnellement, personne ne m'appelle jamais, donc j'en aurai pas l'utilité.
Bon, je te laisserai un message.
Oh, c'est gentil. mais c'est sûr que moi aussi, j'aimerais bien avoir accès à Google Voice. J'ai envie de. Bon, c'est peut-être ma pathologie du test des trucs nouveaux et beaux et brillants, mais j'aimerais vraiment le tester. Et je suis sûr qu'il y a des possibilités intéressantes avec ce truc. Je voudrais mettre les mains dessus.
Mais en même temps, tu pourras pas le tester en France, puisque a priori, sur ce que j'ai lu, c'est un service qui ne serait disponible qu'aux États-Unis pour le moment. Il n'y a pas de projet pour le rendre disponible en Europe. Alors, je sais pas, ça a peut-être évolué, mais d'après ce que j'ai lu, qui date de mars, pour le moment, ce n'est planifié que pour les États-Unis, ce qui est un petit peu dommage. Écoute, mais bon, ça va pas tarder à arriver, je pense.
Ça évoluera certainement.
C'est lié aux structures de coûts d'appel qui sont différentes ici.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont capables d'offrir ce service à un coût moindre, puisqu'ils ont un système de facture. On a un système de facturation différent. Mais c'est vrai que ça, c'est sympa, la notion d'avoir des emails qui te délivrent les voicemails qu'on a sur ton téléphone. C'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, puisque c'est toujours difficile de lire un email, enfin, d'écouter un voicemail pendant une conférence ou pendant un meeting. Par contre, lire la transcription par email, pourquoi pas?
Donc ça va être une raison de plus pour que les gens ne fassent pas attention à ce qu'on dit pendant les meetings. Super.
C'est super rigolo, c'est que quand ça va transcrire les accents américains traditionnels, je dirais, où il y a très peu d'accents, mais si jamais tu as un accent français comme le mien ou tu as un accent américain prononcé, le système va transcrire tout et n'importe quoi. Et j'ai eu des cas où mon copain en fait me rappelait en disant: on sait que tu as laissé un message, mais t'as provoqué une erreur du robot qui n'a pas été capable de reconnaître quoi que ce soit. Sauf les injures que tu laissais dans le message.
D'accord. Bon, il faudra un Google Voice spécial accent français en américain, quoi, en fait. Mais je suis sûr que Google sera capable de faire ça. Pour comprendre les E, ouais, c'est possible. Dernière chose dont je voulais parler cette fois-ci, c'était Apple et des achats en masse d'écrans tactiles de taille un petit peu plus grande que ceux qu'on a dans nos iPhones, qui laissent penser à toute l'industrie et à tous les journalistes du monde que Apple va lancer cet été ou à la fin de l'été un nouvel appareil qui sera une sorte de notebook ou de tablette PC ou un truc dans ce genre-là. C'est WinTech qui est le fournisseur de ces écrans, qui est un constructeur d'Asie, j'imagine de Taïwan. Mais je ne suis pas sûr. Hein. En tout cas, c'est WinTech qui a annoncé qu'il vendait énormément d'écrans tactiles. Et la dernière fois qu'ils avaient fait une annonce comme ça, c'était le moment où l'iPod Touch est arrivé. Donc c'est a priori une annonce fiable. Et on ne sait pas exactement de quoi il s'agirait, mais un netbook est possible. Même si Apple a dit il n'y a pas longtemps qu'il ne savait pas faire un netbook bon marché et performant. Sony a sorti il n'y a pas longtemps un netbook performant et pas bon marché du tout, et quand on sait qu'Apple aime bien vendre des trucs un petit peu chers et jolis, on se dit qu'ils vont peut-être s'engouffrer dans le marché aussi.
J'en profite juste pour glisser, j'ai profité du fait que Mathieu ne soit pas là, Mathieu qui défend donc les couleurs de la pomme sur son podcast. Je précise juste que Apple nous a déjà montré qu'ils étaient capables de faire du bas de gamme à petit prix. Je pense notamment au Mac Mini, donc ça ne m'étonnerait pas vraiment qu'ils se lancent également dans la course du netbook, quoi, parce que le Mac Mini était connu pour être peu véloce. Et donc Apple l'a fait, donc je vois pas pourquoi ils ne feraient pas un netbook non plus, quoi. Mais ce netbook resterait quand même au-dessus des prix des autres notebooks du marché. On s'appelle quand même Apple, donc on reste au-dessus des prix.
Exactement. Et puis d'autant plus que le Mac Mini, quand on dit bon marché, il faut le dire vite parce qu'il est quand même au prix d'une machine bien
absolument
plus performante du côté
du PC. Absolument, absolument.
Autre nouvelle du côté d'Apple, c'est le nouvel iPod Shuffle. On n'a pas mis d'appréciation dans les notes de l'émission, donc je vais vous demander à tous les deux. Alors, peut-être que je vais décrire un tout petit peu avant de quoi il s'agit, et puis je vous demanderai à tous les deux votre appréciation de la machine. En fait, c'est un iPod Shuffle minuscule. Il se marre déjà, lui. C'est un iPod minuscule qui est vraiment encore plus petit que celui d'avant, qui était déjà minuscule. La particularité, c'est qu'il n'y a aucun bouton sur l'appareil en lui-même. On contrôle l'appareil avec un système qui s'appelle VoiceOver, qui vous annonce, décidément c'est la journée de la voix robotique, ce système vous annonce la playlist sur laquelle vous êtes, et vous pouvez, avec un bouton qui est sur les écouteurs, avancer dans les playlists et avancer dans les morceaux, en ayant l'annonce du morceau et l'annonce de la playlist qui vous est faite par la voix robotique. Voilà un petit peu le principe de l'appareil. Il est très joli, il est minuscule. Yann, qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que c'est une hérésie totale, honnêtement. Et je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Ce shuffle, c'est une vaste blague. C'est vraiment du n'importe quoi. Et déjà, pour la simple et bonne raison que pour ne serait-ce qu'augmenter et baisser le volume, ben, ce contrôle... augmenter et baisser le volume, c'est sur le fil de l'écouteur. Vous avez les contrôles, donc c'est chose qui existait déjà avant, mais vous pouvez pas le faire sans le fil des écouteurs qui sont fournis par Apple. Et autrement dit, si jamais vous cassez vos écouteurs sur l'iPod Shuffle et que vous rachetez des écouteurs dans le commerce, ben vous pouvez pas augmenter ni baisser le son. Donc ça, c'est la première chose qui est incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est quand on apprend que Apple a inséré à l'intérieur du câble des écouteurs une micro puce qui sert d'authentification. Et pour dire les choses simplement, si un constructeur ne paye pas Apple pour avoir cette puce, un constructeur ne peut pas créer d'écouteurs pour l'iPod Shuffle. Donc je trouve ça vraiment incroyable, et donc ce sont déjà les deux raisons pour lesquelles vous ne me verrez jamais avec en tout cas ce modèle-là. J'ai bien aimé les précédents modèles, mais en tout cas celui-là, enfin le fait de devoir payer une licence pour pouvoir concevoir des écouteurs et être obligé d'avoir les écouteurs d'Apple pour pouvoir augmenter et baisser le volume, très peu pour moi. Franchement, je ne suis pas du tout séduit par ce produit d'Apple.
Jeff,
c'est Apple. Donc, ils ont la capacité de créer des micro-marchés énormes, là où il y a a priori pas de demande, où on se dit le produit ne répond pas à un besoin et il est vraiment pas bien fait. Le Mac Mini, moi personnellement, j'ai toujours trouvé que c'était un veau qui n'avançait pas, mais il y a eu des tonnes de Mac Mini qui ont été vendus. Et donc je pense qu'on peut s'attendre à ce que Apple crée un nouveau segment dans le produit d'Apple. Aujourd'hui, tu regardes les différents segments où ils ont fait énormément de ventes. Je crois que aujourd'hui il y a 27 millions d'iPhone et d'iPod dans le monde qui ont été vendus. Le fait de pouvoir récupérer quelques millions d'unités de plus à un prix d'entrée, là où on va trouver des MP3 players qui sont vraiment de base. Je pense qu'ils vont essayer d'aller les chercher.
Mais je crois que la question n'est pas vraiment est-ce qu'ils ont besoin d'un lecteur MP3 qui soit en début de segment, enfin en vraiment bon marché. Dans le principe, ils avaient déjà un iPod Shuffle avant. Là, la question est surtout ce mode de contrôle, parce que Yann disait on peut pas contrôler la machine si on n'a pas l'écouteur Apple, enfin on peut pas monter ou baisser le volume, mais c'est plus que ça, on peut pas contrôler du tout la machine, il n'y a pas de bouton sur le truc. Donc le fait de brancher un écouteur qui ne soit pas cautionné par Apple fera qu'il ne fonctionnera pas de toute façon, et même s'il fonctionnait, s'il a pas de bouton, si c'est pas un écouteur spécialement conçu pour l'iPod Shuffle, il fonctionnera pas. Donc il y a une moi en fait, la manière dont je vois la chose, c'est que c'est une sorte de névrose de Steve Jobs qui s'est dit moi je voudrais une machine sans bouton. Et les gens lui disent mais Steve, tu sais que s'il y a pas de bouton, je m'en fous, je veux pas de bouton, il y a trop de boutons.
T'avais vu la vidéo du MacBook Wheel?
Oui, j'avais vu, oui, c'était un truc.
Ben voilà, mais ça devait rester une blague, et aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils ont concrétisé le truc, quoi.
Presque, oui. Donc, ceci dit, bon, pour conclure là-dessus, il faut avouer que si effectivement, moi je pense que l'implémentation là n'est pas fantastique, mais si effectivement ils réussissent à deviser un système de contrôle qui puisse fonctionner sans bouton, du tout, ou alors juste avec un seul bouton, ça peut être intéressant. Moi, j'aimerais bien quand même qu'il y ait également un bouton sur l'appareil en lui-même et pas uniquement sur les écouteurs, parce que c'est deux problèmes différents à la limite. Mais bon, l'idée de l'interface utilisateur qui fonctionnerait avec un seul bouton peut ouvrir des possibilités intéressantes. Là, je suis d'accord avec ça. Enfin bon, c'est Apple, effectivement. Autre info.
Et tu peux imaginer que les écouteurs vont coûter un prix non négligeable, puisqu'aujourd'hui, des écouteurs de remplacement, c'est $29 ici. Et ces écouteurs-là, comme ils sont assez fragiles,
tous les 3 mois, tu peux le jeter.
Tous les 3 à 6 mois. Et donc, si tu as une logique embarquée, un peu d'électronique dans l'écouteur, j'imagine que ça va aller dans les $60. Et en gros, tu vas avoir un iPod Shuffle qui va être jetable, mais alors c'est l'écouteur qui va être la chose que tu vas payer.
C'est comme les imprimantes super bon marché qui te sont vendues, qui te nécessitent ensuite l'achat de cartouches qui coûtent le prix de l'imprimante quasiment, de cartouches d'encre. Quoi. Ouais, bon. Bref, on est tous un petit peu circonspect par rapport à ce nouvel iPod Shuffle.
Un petit coucou à Mathieu quand même.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté MacJT cette semaine qui vient de sortir, mais il n'a pas été super négatif par rapport à cet iPod et ça ne m'a pas surpris.
Oui, j'ai vu ça. Je n'étais pas très surpris en même temps. Hein.
Autre news sur Apple, c'est le firmware de l'iPhone qui va bientôt changer, qui va passer en version 3.0 et il y aura demain, donc on enregistre cet épisode le 16 mars, le lundi 16 mars. Eh bien, le mardi 17, Apple va présenter cette nouvelle version du système iPhone. Et il y aura sans doute beaucoup de nouveautés. On a entendu des rumeurs sur les MMS qui ont été démenties. Démenties par d'autres rumeurs, donc en même temps, on ne sait pas très bien. Il y a des rumeurs sur le cut and paste, le copier-coller. Ah, copier-coller, voilà, merci. C'est l'Américain qui me dit comment on traduit cut and paste. Faut que je dorme, moi. Voilà, il y aura le copier-coller, il y aura peut-être de la vidéo. Enfin, la vidéo a été démentie aussi. Par contre, il y aurait peut-être des fonctions du Palm Pre dont on avait parlé là encore la dernière fois, tout ce qui était connexion de tous vos différents contacts dans les différents environnements, Facebook, email, téléphone, chat, tout ça. Peut-être que ça va arriver. On parle de différentes technologies qui n'avaient pas pu être implémentées dans la version 2.0 ni 2.1. Donc voilà, ça sera présenté demain. On vous en parlera évidemment la prochaine fois, enfin sans doute. Mais si vous voulez vous pencher là-dessus, si vous êtes un amateur d'iPhone, allez voir les intertubes et les internets demain. Vous aurez certainement, ou plutôt après-demain, vous aurez certainement des nouvelles à ce sujet. On va conclure avec deux ou trois petites rumeurs à la con sur lesquelles on va passer très rapidement. Microsoft rachète Dell. Il y a eu une histoire là-dessus. Moi, j'y ai cru comme un imbécile. Pourquoi j'y ai cru ? Parce que je pense que Microsoft gagnerait beaucoup à vendre eux-mêmes des ordinateurs sous leur marque, sous leur nom. Ils pourraient contrôler la structure, ils pourraient contrôler le matériel, et ça permettrait d'avoir des ordinateurs qui fonctionnent beaucoup mieux que cette agglomération de constructeurs indépendants qui existe aujourd'hui.
Je partage pas ton avis là-dessus. Enfin, quand tu vois la Xbox et le temps de survie d'une Xbox avec
la Xbox est un cas particulier.
Ben écoute, c'est l'une des premières tentatives hardware sérieuses de Microsoft et on voit ce que ça a donné.
D'accord. Donc, je comprends le message.
Non, enfin, je pense que Microsoft a tout intérêt à rester dans le domaine software et laisser le hardware au.
D'accord.
Aux gens qui sont spécialisés là-dessus. Mais ce n'est que mon point de vue. Je comprends tout à fait que tu en aies un.
Bah en tout cas, moi, mes amis m'ont effectivement expliqué par A plus B que cette rumeur spécifiquement de Microsoft qui rachète Dell était a priori une sorte de poisson d'avril. Et donc, j'ai retiré mon enthousiasme immédiatement. Autre nouvelle, les réseaux sociaux sont plus populaires que l'email. Nielsen a fait une étude selon laquelle 66,8% des internautes utilisent des réseaux sociaux contre 65,1% qui utilisent l'email. Et évidemment, tout le monde s'est dit, ça y est, Facebook a conquis le monde. Et en fait, on ne parle que du webmail et pas de toutes les sources de mail comme quand vous utilisez en POP 3, c'est-à-dire Outlook ou Outlook Express, ce genre de choses. Donc bon, tout de suite, c'est beaucoup moins impressionnant. Donc voilà, l'email est encore le roi, a priori, des moyens de communication, même si c'est
en train de changer. Je pense que quand même, 66% des utilisateurs sur les réseaux sociaux, quelques 5-6 ans après leur lancement, c'est quand même impressionnant.
Ah, c'est très certainement impressionnant, ouais. Oh, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, moi, j'ai remarqué, on parlait des moins de 25 ans tout à l'heure pour Deezer. Moi, mes amis qui ont plus de 25 ans utilisent beaucoup l'email. Mes amis qui ont moins de 25 ans utilisent énormément Facebook. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer un message sur Facebook au lieu d'envoyer un email. Et ça me hérisse parce que j'aime pas spécialement Facebook. Mais c'est vrai que c'est devenu très, très utilisé, quoi. Pour cette utilisation qui est simplement d'envoyer un message. Je veux dire, on a de l'email, quoi. C'est bon. Fait utiliser les outils qui existent déjà et qui fonctionnent très bien. Get off my lawn.
On croira au temps de ma grand-mère. Et voilà, ça marche exactement. Très bien comme ça.
Autres infos, France Télécom n'est plus. France Télécom va être renommée Orange, mais bon, c'est pas avant 2012. Je sais pas si ça intéresse qui que ce soit, à vrai dire, on s'en fout un peu. C'est pour ça que c'est dans la rubrique on s'en fout, rumeur à la con, mais au moins vous saurez. Il y a une école à Cambridge qui implémente un système de reconnaissance faciale pour remplacer le registre dans l'école. Donc les étudiants arrivent à l'école, et ben ils se mettent devant la caméra et l'ordinateur sait lui-même qu'ils sont arrivés à l'école. Pareil pour quand ils partent. Ça fait un petit peu Robocop quand même cette histoire, mais bon. Et je pense aussi que c'est pas prêt d'arriver chez nous tout de suite. C'est quand même Cambridge, c'est particulier. Et puis voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour les news, à moins que vous n'ayez une autre news dont vous vouliez parler, les gars. Quelque chose qui vous a fasciné?
Non, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui avait fasciné, enfin retenu notre attention, en tout cas la mienne, en ces deux semaines qui se sont écoulées depuis le dernier épisode. Donc, pour ma part, non.
D'accord. Jeff, un truc en direct?
On en a parlé. Ce qui m'a impressionné sur ce mois qui vient de passer, c'est la croissance de Twitter. J'y reviens. Et je me demande ce qui va se passer sur les 4 semaines qui viennent. Est-ce qu'on va voir encore un double sur le trafic? Est-ce qu'on va avoir plus de célébrités sur le service?
Bah on en parlera dans le prochain épisode de Twitter Watch, l'émission où on vous parle des évolutions de Twitter.
En fait, la question c'est est-ce qu'on verra 1 million de followers au compte CNN sur Twitter d'ici un mois? Aujourd'hui, on a 500 000.
Tu penses que ça arrivera ou tu penses que ça n'arrivera pas? Est-ce que tu peux te risquer à une prévision?
Oh, je suis sûr que ça va arriver. Est-ce que ça va mettre 4 semaines?
Oui, c'est ça. Plus, dans 4 semaines.
Mais je suis certain que ça arrivera.
D'accord. Pour conclure, avant de passer au conseil logiciel et au site fantastique, j'aimerais demander à Jeff de nous parler un tout petit peu plus de South by Southwest, qui est cette conférence qui se passe au Texas en ce moment même.
C'est une conférence de 5 jours qui va être sur les sujets. Donc l'informatique et le monde des médias, la musique et les films. Donc c'est trois
conférences,
trois événements qui sont organisés ensemble. Il y a à peu près 10 000 personnes qui sont sur la conférence. Et aujourd'hui, si on suit Twitter et que l'on s'abonne au sujet Diez SXSW, on va voir un torrent d'informations qui va arriver, puisque la conférence est structurée autour de c'est un ensemble de sessions qui vont tourner en parallèle, 3 ou 4 sessions en parallèle, qui sont typiquement très intéressantes. C'est pour ça que j'ai un regret personnel de pas avoir pu y aller cette année, sur le domaine de l'informatique, des médias, de la culture. Et c'est franchement des sessions très intéressantes, une conférence très intéressante, qui est extrêmement connue aussi pour les parties qui ont lieu à partir
les fêtes,
de 5-6
heures.
Les soirées, les fêtes, oui, les parties, les soirées, les fêtes, qui ont lieu de 6 heures le soir après la fin de la conférence jusqu'à 2-3 heures du matin dans différents bars, différents endroits. Et c'est vraiment très très sympa comme ambiance.
Moi, c'est vraiment, on parlait de TED la dernière fois, la conférence Technology, Entertainment and Design, et South by Southwest, c'est l'autre conférence à laquelle j'aurais vraiment aimé aller. Et malheureusement, c'est pas possible. Donc j'espère que j'aurai l'occasion d'y aller un jour. Et en tout cas, si vous vous intéressez un tout petit peu au monde de la technologie, il est bon de savoir de quoi il s'agit, d'en avoir entendu parler au moins une ou deux fois parce que c'est un événement qui est devenu majeur au milieu du Texas. Enfin, Austin est une ville un petit peu particulière au Texas. C'est pas non plus que des
vaches
et des cowboys, voilà. mais c'est une conférence assez exceptionnelle dont il faut avoir entendu parler au moins une fois.
Eh ben écoute, l'année prochaine, t'essaies de venir et puis j'irai avec toi.
Oh bah écoute, avec plaisir, on essaiera de se faire ça. Rendez-vous est pris, je ne réserve pas encore ton billet, hein. Je ne suis pas certain de pouvoir. On verra.
Pas de problème.
Conclusion de notre émission avec notre conseil logiciel. Et donc je vous parlais de Spotify. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour Spotify? J'ai quelques invites à vous proposer que j'aimerais faire gagner à nos auditeurs. Donc comme je vous le disais, c'est un service... En fait, un logiciel qui vous permet de faire du streaming de de musique en direct, qui est... Beaucoup de gens vont dire « Ah, encore un service comme ça ». Il est tellement rapide et tellement simple et réactif dans l'utilisation que ça vaut véritablement le coup, au moins de l'essayer. Ça marche en peer-to-peer, et enfin, on ne sait même pas comment ça marche, mais quand on clique sur un morceau de musique, le morceau se lance, mais... En 0,2 seconde, quoi, c'est invraisemblable, ça va plus vite que si on avait le morceau sur notre ordinateur et qu'on devait et qu'on cliquait dessus pour le jouer depuis notre ordinateur, quoi. Le temps que le disque dur accède au morceau, ça serait plus lent. C'est véritablement invraisemblable.
Quel commercial, franchement.
Ah non, mais je te jure. Tu sais, moi, j'ai aucun intérêt à vendre Spotify, hein.
Non, c'est une façon de parler, mais c'est vrai que ça donne envie. Je suis curieux de voir la chose.
Eh ben, je t'enverrai une invite comme ça, tu verras.
j'ai réussi.
et malheureusement, c'est pas disponible aux États-Unis, donc Jeff, je suis désolé, mais je peux pas t'envoyer une invite.
Pour une fois.
Ouais, voilà, ouais. Mais bon, donc pour les gens qui vont, si vous voulez une invite pour Spotify, comment on va faire? Bah écoutez, je vais envoyer une invite. Oh, je voulais faire un truc avec iTunes, mais genre les commentaires sur iTunes, mais tant pis, c'est pas grave. Envoyez-moi juste un email à l'email de l'émission. Vous trouverez l'adresse email sur le site et je tirerai au hasard 3 personnes sur les adresses email que j'ai reçues. Envoyez un email avec le nom Spotify Spotify dans l'adresse dans le sujet et je vous enverrai au hasard à 3 personnes pour que vous puissiez l'essayer. Et ce n'est que justice puisque moi j'ai eu l'invite grâce à une demande que j'ai faite sur Twitter. Il y a eu des gens super sympas qui m'ont envoyé une invite, donc voilà, j'en renvoie quelques-unes aux gens de l'internet du cybernaute. Donc Spotify, c'est un petit peu notre logiciel, notre conseil logiciel de ce mois-ci, mais comme il n'est pas disponible pour tout le monde, je voulais parler d'un autre logiciel qui s'appelle KeePass. Ça s'écrit K-E-E-P-A-2-S. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit, vous deux?
Du tout.
Non, ça ne me dit rien.
Bah en fait, c'est un petit logiciel super pratique qui est fait pour stocker tous vos mots de passe que vous allez utiliser. Vous savez, on a des tonnes de mots de passe qu'on utilise sur différents forums, sites internet, email, adresse email, etc., etc. Et on ne sait jamais où les mettre. Alors, la plupart des gens vont foutre ça dans un petit fichier texte quelque part, ce qui est super dangereux parce que si jamais vous avez un problème si votre ordinateur a un spyware, un truc corrompu, on ne sait jamais, eh ben ça peut être... quelqu'un peut récupérer ce fichier, et ben là vous le mettez dans KeePass, il y a une interface relativement simple et qui va stocker tout ça avec un cryptage assez élevé. Et vous allez pouvoir garder tout ça de manière complètement sécurisée. Et voilà, donc c'est un logiciel super bien fait que je recommande à tout le monde, qui va vous simplifier la vie pour tout ça et que vraiment qui est une meilleure solution que de stocker tous vos mots de passe quelque part sur un bout de papier ou sur votre ordinateur dans un fichier texte. Enfin bon, je ne vais pas me répéter. Allez voir qui passe.
Ça marche pour tout type de produit ou c'est pour les mots de passe sur Internet?
Non, vous pouvez utiliser ça pour n'importe quel type de produit. C'est fait pour ça à la base, mais vous pouvez utiliser...
Sur Internet, moi j'utilise Xmarks. Qui est la nouvelle génération de Foxmarks, qui était connue pour être un bookmarker que tu peux utiliser sur différentes machines. Comme ça, tu synchronises tes bookmarks. Et ils se sont renommés Xmarks pour se détacher un petit peu de Firefox. Et ils ont cette fonctionnalité de sauvegarde des passwords que tu peux sauvegarder et réutiliser sur d'autres machines.
Tout à fait. Là, c'est, ça synchronise tous tes passwords entre les différentes machines, en fait. Mais la différence, c'est que là, tu peux choisir de faire n'importe quel mot de passe. Ça peut te servir pour tes emails, par exemple, aussi. Et tu as un fichier qui est crypté ensuite, un fichier crypté, et tu peux le transférer d'une machine à l'autre facilement. Tu peux, enfin, c'est une autre solution, effectivement, qui fonctionne aussi bien, quoi. Tu m'as un petit peu coupé mon enthousiasme pour qu'il passe là en parlant de Xmarks.
Je t'offre une autre, je t'offre une alternative qui est aussi très, c'est un très bon produit en fait.
Tout à fait. Mais si vous ne faites pas confiance au, à ces gens bizarres sur Internet de Xmarks, que j'utilise aussi entre parenthèses, vous pouvez essayer qu'il passe. Bon, l'un ou l'autre fonctionne très très bien. Le site fantastique, cette fois-ci, c'est... alors, il y en a plusieurs. Lequel je vais choisir ? Allez, je vais choisir Vie de Merde, pour les gens qui ne connaissent pas encore Vie de Merde. Et là, par contre, je suis sûr que vous en avez entendu parler, non ?
Eh bien, au risque de te décevoir, non. J'avais jeté mon dévolu sur un autre site que t'avais prévu, PixelR, mais je te laisse nous présenter de Vie de Merde, puisque rien que le titre, le nom du site m'intrigue beaucoup.
Bah en fait, Vie de Merde, c'est un site où les gens vont pouvoir aller poster de manière totalement anonyme quelques mots pour décrire un truc pourri qui leur est arrivé le jour même ou il y a quelques jours ou qui leur est arrivé dans leur vie. Et c'est totalement anonyme, donc ça fait que les gens ont une honnêteté qui est à la fois déconcertante et fascinante. Je veux dire, c'est l'un de ces trucs où tu te rends compte que on est vraiment, vraiment tous pareils, quoi. Tous ces trucs où tu te dis dans ta tête, putain, ça craint, je me suis fait rembarrer par tel truc, il y a un truc pourri qui m'est arrivé tel jour, ou je suis à la fois honteux et dégoûté. Et ben, on se rend compte que vraiment c'est la même chose pour tout le monde. Et il y a quelque chose de poétique et de fascinant là-dedans. C'est un site qui m'a vraiment, vraiment enthousiasmé. Moi, je l'ai découvert quand mon frère m'a offert le livre qui s'appelle Vie de Merde. J'ai pas très bien compris le message, mais bon, j'ai quand même, j'ai quand même apprécié là.
Tout va bien.
J'ai quand même apprécié le cadeau. Mais franchement, allez voir sur videmerde.fr et lisez les différents petits témoignages. Vous allez voir que c'est difficile de s'en défaire parce que c'est quelque chose de véritablement fascinant. Voilà, j'ai fait ma petite salade. Pourquoi tu te marres ?
Non, parce que je suis sur le site en ce moment même. Et Désolé. Enfin, les gens qui sont dans le chat peuvent aller maintenant et comprendre pourquoi on rigole. Puis on s'excuse pour les personnes qui...
Lisons une.
Écoute, c'est toi qui as proposé le site, alors je te laisse lire, Patrick, je t'en prie. C'est, je n'oserais pas.
Je vais... Alors, vas-y.
Non, je ne peux pas lire ça, mais par contre, effectivement, j'en ai lu quelques... d'autres, et ça a l'air d'être effectivement un site bien intéressant. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec Secret Tweet, je crois, c'est un site qui s'appelle comme ça, que Kevin Rose avait parlé, où effectivement c'était un site un petit peu comme Twitter, où tous les gens pouvaient tweeter en anonyme et dire un petit peu ce qui se passait dans leur vie, dans l'anonymat le plus total, et on voyait un petit peu l'effet que ça avait finalement de... À quel point les gens pouvaient se lâcher quand ils savaient qu'on pouvait pas savoir de qui est à l'origine du message.
Ce truc-là, c'était une copie de Post Secret, en fait. Qui était un truc où on envoyait des cartes postales anonymement, détaillant un truc de notre vie qui était à l'origine du truc. Je vais lire quelques messages de Vie de Merde. Par exemple. Aujourd'hui, après une longue série d'examens, je viens d'apprendre que je suis stérile. Ma femme est enceinte de notre deuxième enfant. Je pense que je vais avoir des questions à lui poser. Vie de merde. Aujourd'hui, j'ai avoué à mon père que j'étais lesbienne. Le seul truc qu'il m'a dit, c'est « ça m'étonne pas, toutes les lesbiennes sont moches. Vie de merde. » Voilà. C'est ce genre de choses. Un autre truc encore.
Les bookmarks.
Un truc terrible. Aujourd'hui, l'agent immobilier est venu pour faire visiter ma maison. Il a ouvert ma chambre et j'étais en train de me branler. Vie de merde. Voilà. C'est ce genre de choses que vous pourrez trouver sur Vie de merde. Il n'y a pas que ça. Et c'est, sincèrement, c'est quelque chose de... Ah, tiens, encore un autre truc qui est carrément triste et poétique à la fois. Aujourd'hui, je suis allé au ciné avec la fille qui me plaît depuis des mois. Après les pubs, elle a dit qu'elle allait aux toilettes. Elle n'est pas revenue de la salle. Elle n'est pas revenue dans la salle. Vie de merde. C'est triste, hein ? Enfin bon, voilà. Allez-y, c'est vraiment un site excellent. Et du coup, on va passer à notre... c'est la fin, voilà, c'est la fin de l'émission. Je vais faire un tout petit laïus sur iTunes pour vous demander d'aller sur iTunes pour nous laisser un petit commentaire, une petite review, un petit message. Ça nous aide en fait à être un petit peu plus présents sur l'iTunes Store, qui est le moyen de diffuser l'émission le plus simple, et pour de nouvelles personnes découvrir l'émission. Et je voudrais lire un message que nous a laissé David. On a aujourd'hui 19 avis. C'est pas énorme, mais bon, j'espère qu'on en aura un petit peu plus à l'avenir. David a dit: geek, mais pas trop. Très bon podcast sur les nouvelles technologies. Comparé à la plupart des podcasts, il n'énumère pas les nouveaux gadgets et autres, mais s'attache à les analyser avec des points de vue hétéroclites. Et je trouve que c'est exactement le type de choses que je visais quand j'ai commencé l'émission, c'est-à-dire que je veux vraiment parler de la technologie dans un langage clair et qui parle à tout le monde. Donc voilà, visiblement le but est atteint. Je remercie David pour ce commentaire sur iTunes. Et si, comme lui, vous voulez aller faire un petit commentaire, n'hésitez pas, ça nous aidera pas mal. Le site où vous pouvez retrouver tous les commentaires sur les émissions, les notes de l'émission et les liens dont on a parlé cette fois-ci, c'est lrdv.fr. Comme toujours, le rendez-vous tech, ça se met en abréviation LRDV, si on le dit très vite. Je suis aussi en train de transférer tous mes sites différents vers mon site principal qui s'appelle French Spin. Donc ne paniquez pas, si vous allez sur lrdv.fr et que vous êtes transféré vers frenchspin.com, c'est mon site principal aussi où j'ai toutes mes différentes émissions et mes différents petits projets internet. Donc voilà, il y aura un site central pour tout ça à partir de maintenant. Et le mail auquel vous pouvez envoyer des suggestions, des commentaires, et n'oubliez pas, si vous voulez un petit... une invitation pour Spotify, vous pouvez envoyer un email là-bas aussi, c'est tech@frenchspin.com. Frenchspin, c'est FRENCHSPIN, comme Frenchspin, quoi, .com. Et voilà, c'est à peu près tout. Les gars, quelque chose dont vous voulez parler, comme d'habitude, un site, quelque chose? Non? Twitter, vos comptes Twitter, peut-être?
Alors, je vais dire deux choses. Donc, la première, c'est que... ceux qui nous suivent donc sur Twitter, donc Yannale, enfin Twitter/Yannale pour moi et /NotPatrick pour Patrick, ont peut-être remarqué qu'à un moment on a eu une petite discussion au niveau des clients lourds, du fait que je n'étais pas vraiment partisan de ces technologies, les clients riches qu'on retrouve sur Internet, les Facebook, les machins comme ça. Et Patrick avait noté pour cet épisode un site qui s'appelle PixelR, qui, si je dois résumer la chose, c'est un Photoshop dans Internet Explorer. Et j'étais vraiment très très méfiant de la chose, et j'ai été vraiment très très surpris de la rapidité, de la fluidité de la chose. C'est un site que je recommande vraiment à toutes les personnes qui ont un petit traitement d'image à faire et qui ont besoin quand même d'un outil robuste et riche, aussi riche que Photoshop. Donc c'est pixlr.com. C'est un Photoshop online, gratuit, qui fonctionne très très bien. Et donc voilà, quoi. C'était juste le petit coup de pub que je voulais faire.
Mais donc, ça veut dire que tu reviens sur ce que tu as dit, finalement? Parce que quand j'ai parlé de ce truc, t'étais quand même très méfiant, hein. Tu disais, oui, non, c'est un client lourd, tout ça, c'est un truc flash.
Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, parce que je suis de très mauvaise foi et je déteste admettre mes torts. Donc, mais je dirais quand même que cet outil-là, en l'occurrence, il a été très très bien développé, et on ne sent pas le fait que c'est un client riche qui est en train d'être téléchargé. On ne sent pas la lourdeur habituelle des autres gros sites flash qui se prétendent clients riches et qui en fait ne sont que des clients lourds. Donc, je le recommande vraiment à toutes les personnes qui ont des petits traitements à faire, quoi.
Donc, Pixel. Mais je,
voilà.
Jeff?
Moi, j'ai utilisé dans la semaine dernière la nouvelle version de TapTap Revenge. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est disponible sur iTunes en France ou en Europe.
Mais oui, TapTap, bien sûr.
C'est le jeu numéro 1, en fait, sur l'iPhone. La nouvelle version vient d'arriver et j'ai essayé de travailler sur le soft pour arriver à 100 000 points en version extrême, et ben c'est dur. Mais c'est super sympa.
Ouais, Tap Tap qui est une sorte de Guitar Hero, un mix entre Guitar Hero et Dance Dance Revolution en quelque sorte avec les doigts. Bon, je pense que beaucoup de gens connaissent, mais si vous avez un iPhone ou un iPod Touch, n'hésitez pas à aller télécharger ce petit jeu et vous passerez de bons moments avec. Jeff sur Twitter, c'est Jeff.
N'est-ce Jeff sur Twitter, c'est Jeff, ouais.
Je te déteste toujours autant pour ça, mais bon. Donc, n'hésitez pas à suivre Jeff si vous voulez, ne serait-ce que, vous savez quoi ? Twitter va devenir très important, je pense qu'on l'a assez répété. Allez réserver votre nom sur Twitter, votre pseudo, votre le nom que vous utilisez d'habitude sur Internet, parce que d'ici quelques mois, Twitter va arriver en France, et si vous n'avez pas réservé votre pseudo, vous serez super déçu et super dégoûté. Donc allez-y dès maintenant, et puis tant qu'à faire, vous pouvez suivre Jeff, Yann et moi du même coup, hein. Tant qu'à faire, c'est toujours ça de fait. N'hésitez pas. Voilà, c'est la fin de notre émission pour cette fois-ci. Je vais vous donner rendez-vous à vous, les auditeurs, et à la chatroom la prochaine fois dans 2 semaines. Et puis, bah, d'ici là, on vous souhaite de bien vous amuser sur Internet, comme d'habitude. Et on vous dit donc à la prochaine fois. Merci à tous. Ciao, ciao.
Salut.
Au revoir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.